Le texte qui nous est proposé maintenant pour introduire cette méditation se trouve dans l'Apocalypse, évidemment, puisque nous sommes ce week-end orienté vers l'Apocalypse, et nous lirons au chapitre 12 de l'Apocalypse, à partir du verset 7. Apocalypse 12, à partir du verset 7. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous. » Que le Seigneur bénisse l'influence de sa parole dans nos cœurs.
Chers frères et sœurs, chers amis, c'est un plaisir de me retrouver devant vous. Et c'est un plaisir pour moi d'aborder ces sujets, et en particulier ce qui pourrait paraître à première vue un peu spéculatif sur cette guerre dans le ciel. J'ai pu me rendre compte à travers les discussions que j'ai eues avec les uns et les autres cette semaine que finalement, nous nous posons beaucoup de questions. Et beaucoup de questions qui restent très souvent encore sans réponse. Et on peut rester comme ça, des dizaines d'années, sans réponse. Et j'avoue que l'image que j'ai de Dieu est celle d'un Dieu qui répond, d'un Dieu qui donne des indications. Alors vous savez, dans ce genre de réflexion théologique, quand on a le sentiment de résoudre une question, d'apporter une réponse, 10 autres sont derrière et parfois plus difficiles à répondre que la précédente. Vous avez tous connu cela et les discussions auxquelles il était fait allusion ce matin sont bien le reflet de cette difficulté à avancer. Et pourtant, je crois que Dieu veut nous donner des certitudes, des assurances, au moins des assurances pour notre salut. Et dans le texte qui nous est proposé aujourd'hui, qui nous parle de cette guerre au ciel, il est question de notre salut. Et à un moment donné, alors qu'on a l'impression que tout le combat se passe au ciel, une voix dit « Maintenant, le salut est arrivé. » Ce qui me laisse entendre qu'il y a un lien entre ce combat dans le ciel et notre salut. Alors ce texte pose aussi beaucoup de questions. Et on va essayer d'en résoudre, on va essayer d'en approcher quelques-unes. Et je vous propose donc d'examiner ce texte avec un peu de détails. Ce texte, on l'a lu, et donc, voyez, il y a un lien entre ce combat dans le ciel et notre salut. Maintenant, nous n'avons que peu de textes qui nous parlent de ce combat dans le ciel. Néanmoins, ils nous disent un certain nombre de choses. Et ce combat, on en parle dans le livre de Daniel, on en parle dans le livre de Job, On en parle un petit peu dans la Genèse, mais avant d'arriver à ce combat lui-même, j'aimerais me focaliser pendant quelques instants sur ce personnage qui est Michaël. Alors Michaël, ça vient, c'est un nom hébreu qui vient de trois mots hébreux, Mi, Ka et El, qui textuellement signifie qui comme Dieu, mais le Mi est un Mi interrogatif. Qui donc? Et on pourrait traduire ce prénom, ce nom, de la manière suivante. Qui donc est comme Dieu? Et je mets ce donc, qui n'est pas dans le texte, pour marquer l'interrogation. Qui donc est comme Dieu? Nous trouvons ce mot, ce nom, à trois reprises dans toute la Bible. Nous le trouvons dans le livre de Daniel, nous le trouvons dans l'épître de Jude, et puis dans le texte qui nous occupe maintenant. Et nous aborderons ce premier sujet. Ensuite, nous verrons quand a lieu cette guerre. Et ça va nous aider. Quand a lieu ce combat? Et puis, de quelle nature est ce combat? Et peut-être que nous aurons quelques surprises. Alors, j'arrive à ma première question. Qui est Michaël? Un premier texte nous est fourni par le texte que nous étudions. Il y eut guerre dans le ciel. Michaël et ses anges combattirent contre le dragon et le dragon et ses anges combattirent. Deuxième texte que je vous propose, Daniel 10, verset 13. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Cela nous indique qu'il y a une fois de plus un combat. Mais Michaël nous est apparemment décrit ici comme l'un des principaux chefs. Et ça n'est pas l'idée que nous en avons. Il faut aller un petit peu plus loin dans le texte, dans Daniel 12, au verset 1er, pour avoir une idée plus précise. En ce temps-là s'élèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Et là, ce Michaël nous est décrit comme le principal chef. Et non seulement cela, mais il nous est décrit comme le défenseur des enfants de son peuple. Et par conséquent, nous n'avons pas trop de difficultés à identifier ce personnage. Ce personnage, c'est Jésus. Alors, c'est dans l'imagerie chrétienne habituelle que de voir l'archange Michel terrassant le dragon. Mais je crois que nous avons une idée, c'est que c'est Christ qui a terrassé le dragon. La question qui va se poser maintenant, donc je vous livre le quatrième texte, Jude. L'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit « Que le Seigneur te réprime ». Dans tous ces textes, vous réalisez que ce personnage, Michaël, que nous avons identifié comme étant Jésus, est en prise directe, est en lutte directe avec Satan. Et je pourrais dire que Michaël, c'est le nom de guerre de Jésus. Ce nom de guerre quand il est en guerre contre Satan. Pourquoi? Qu'est-ce que ce nom nous apporte? Qu'est-ce qu'il nous dit? Eh bien, je vous rappelle ces paroles qui sont attribuées au roi de Babylone par le prophète, mais on voit très bien que celui qui est derrière, c'est Satan, qui dit « Je serai semblable au Très-Haut ». Et la réponse, le combat qui se livre là, ce combat dans le ciel, consiste pour Jésus à dire « Mais qui est semblable à Dieu? Notez bien qu'il ne va pas prétendre, lui, être semblable à Dieu. Il ne va pas dire « Non, tu n'es pas semblable à Dieu, c'est moi qui suis semblable à Dieu. » Il va simplement poser une question. Sinon, il se mettrait sur le terrain de l'ennemi. Tu prétends être semblable à Dieu ou au Très-Haut. Qui donc peut prétendre être semblable au Très-Haut? Et c'est là la signification de son nom. Maintenant, examinons un petit peu la nature de ce combat. On sera amené à y revenir, mais regardez un peu ce que nous dit ce dernier texte de Jude. Ce texte nous dit que Satan disputait à Michaël le corps de Moïse. En d'autres termes, Dieu se propose de ressusciter Moïse et Satan intervient. Et s'il intervient, c'est qu'il se croit dans son bon droit. C'est un peu comme ce qu'il disait, mais tu n'as pas le droit de ressusciter Moïse. Et vous voyez à travers cela que nous sommes dans un combat d'idées. Est-ce que Christ a le droit de ressusciter? Mais vous me direz, il a le droit de ressusciter parce qu'il a tous les droits. Oui, certes, mais est-ce que c'est juste? Est-ce que Moïse est exempt de tout péché? Ben non. Alors de quel droit tu le ressuscites? Et vous voyez l'enjeu du combat. De quel droit tu fais cela? Mais parce que je l'ai sauvé, allez-vous me dire. Mais ce n'est pas encore fait. Christ n'est pas encore mort sur la croix. Et là, je vous demande d'essayer de penser un petit peu à l'enjeu qui est ici. Dieu, et en l'occurrence Michaël, Jésus, anticipe le salut. Il n'est pas encore mort sur la croix. Ce sacrifice est simplement représenté par les sacrifices qui étaient faits dans le sanctuaire terrestre. Et pour autant, il prend le risque. Il prend le risque de s'avancer et de ressusciter Moïse. Nous allons voir qu'il y a d'autres enjeux et nous allons les faire apparaître au fur et à mesure. Nous avons vu ce texte de Jude, mais je vous propose maintenant d'avancer un petit peu et de voir que dans le texte qui vous a été proposé, Satan est appelé l'accusateur des frères. Si je devais passer maintenant devant le tribunal de Dieu, je vous avoue que je ne serais pas très à mon aise, a priori, parce que des choses à me reprocher, j'en ai, et je suppose que je ne suis pas le seul. Mais s'il y a un accusateur, il y a un défenseur. Et là, je me sens beaucoup, beaucoup plus à l'aise avec ce défenseur. Le défenseur des enfants de ton peuple. Et vous voyez qu'on se trouve dans la logique d'un tribunal. Jusqu'à ce que je réalise que l'accusation ou les accusations que portait Satan étaient peut-être un peu différentes de ce que j'imaginais. Dans le livre de Job, est-ce que Satan accuse Job de tel ou tel péché? Non. C'est l'idée que je m'en faisais, mais non. Alors de quoi accuse-t-il Job? Il l'accuse d'une sorte d'intention. Il pose un cas d'école. Il dit, si tu fais cela à Job, si tu ne le bénis pas, alors je suis sûr qu'il te maudit en face. il n'est pas en train d'accuser Job d'un péché. Il est en train d'accuser la nature humaine, telle que je... On pourrait paraphraser la chose ainsi. Telle que je connais la nature humaine, je suis sûr que si tu retires à Job toutes les bénédictions que tu lui donnes, il te maudit en face. Job n'a pas maudit Dieu en face. Et même après cela, Job n'a pas maudit Dieu. Je me demandais aussi pourquoi, alors que Satan avait été défait dans cette première manche de combat, il revenait à la charge. Il dit, mais porte atteinte à sa santé. Alors à ce moment-là, tu verras qu'il te maudit en face. Comme si la démonstration n'était pas complètement probante. Et vous voyez que dans ce combat, nous nous trouvons une fois de plus devant une démonstration. Alors, Dieu dit, tu me pousses à le perdre inutilement. Mais Dieu va rentrer dans ce jeu de la démonstration. Et ça n'est pas un jeu. Parce que si vous lisez les premiers versets du livre de Job, vous vous rendez compte que toute la société céleste est là. Les anges sont là. C'est un combat qui se passe devant les anges. C'est un combat d'idées. Un combat d'idées. Et là, Dieu va permettre que Satan soit malade. Il va permettre que sa femme l'incite à maudire Dieu et à mourir. Il va permettre que Job soit accablé au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Et malgré tout cela, Job ne fléchit pas. Et l'histoire s'arrête là. Mais la démonstration devrait aller plus loin. Quel est l'enjeu là? L'enjeu, c'est le service désintéressé, l'amour désintéressé. Est-ce que Satan sert Dieu de manière désintéressée? Voilà la question que pose Satan. Que pose Satan à Dieu? Job te sert-il, excusez-moi, d'une manière désintéressée? Est-ce que nous servons Dieu de manière désintéressée? Question qu'on peut se poser. Et même, une tendance de la psychologie moderne tend à dire, mais tout ce que nous le faisons de manière intéressée. Il n'y a rien que nous fassions de manière totalement désintéressée. Alors allons jusqu'au bout. Si Satan accuse l'homme de ne pas être désintéressé devant Dieu, il avait déjà accusé au jardin d'Éden Dieu de ne pas être désintéressé. Je vous rappelle ce qu'il avait dit à Ève. Il avait dit à Ève, « Mais si vous mangez du fruit, vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Qu'est-ce qu'il sous-entend là? Il sous-entend que Dieu a comme une chasse gardée. C'est-à-dire que Dieu ne souhaite pas que l'homme mange du fruit pour avoir accès à un statut, à un niveau, à une position qui le mettrait en compétition avec Dieu. Si Dieu vous interdit de manger de l'arbre, de cet arbre-là, c'est parce qu'en réalité, il est intéressé à ce que vous n'ayez pas le même statut que lui, que vous ne soyez pas comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Et c'est une manière de dire, Dieu non plus n'est pas désintéressé. L'expérience avec Job s'est arrêtée à la maladie. Et Dieu n'a pas permis d'accabler cet homme au-delà, mais il restait un dernier pas à franchir. La vie. vie pour vie, peau pour peau. Eh bien, ce dernier pas, qu'il n'a pas franchi avec Job, il va le franchir avec Jésus. Et on se posait cette question cette semaine, mais vous l'êtes posé aussi, pourquoi Jésus a-t-il dit « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Je ne crois pas que Dieu ait abandonné Jésus, mais que Jésus ait eu le sentiment d'être abandonné, sûrement. Il n'a pas fait que réciter un psaume. Il s'est senti abandonné. C'est-à-dire que, à ce moment-là et dans son humanité, c'était plus très clair. Et tout en ayant ce sentiment d'être abandonné, il est allé jusqu'au bout de sa mission. Il n'avait pas la perspective d'une rétribution quelconque pour lui à ce moment-là. Il n'avait pas le sentiment qu'il serait particulièrement honoré. Et sans cette perspective-là, il est allé jusqu'au bout du service, jusqu'au bout de la mission. Et là, il fait devant l'univers entier une démonstration extraordinaire. La démonstration d'un amour désintéressé. Il fait la démonstration de l'amour de Dieu. Il est Dieu, mais il est homme. Il fait la démonstration que l'amour, même chez l'homme, peut être désintéressé. Et ça, c'est la ruine des thèses de Satan. La ruine des thèses de l'ennemi. Ce conflit va trouver là une partie, en grande partie, et pour l'essentiel, sa solution. Mais me direz-vous, ce combat dont il nous est parlé, et j'aimerais que nous en parlions un petit peu, hein, il a eu lieu quand ? Alors nous allons aborder ce problème. Et là, j'ai essayé de vous mettre un petit peu les questions qui se posent. L'accusation porte sur la nature humaine, nous l'avons vu, et l'expérience que Dieu n'a pas pu mener avec Job jusqu'au bout, n'a pas voulu mener, il l'a mené jusqu'au bout avec Jésus. La reprise de Daniel 8, nous l'avons vu, dans Daniel 10, la troisième année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel qu'on nommait Belshazzar. Cette parole qui est véritable annonce une grande calamité. Et le mot hébreu qui est là, c'est Tsaba, qui signifie une armée, un combat, et secondairement une calamité. Mais le mot qui est là, c'est un combat. C'est-à-dire que Daniel, dans la dernière vision qu'il a eue, et rappelez-vous que tout au long de sa vie, il s'est posé des questions. Il a interrogé. Et c'est l'ange Gabriel qui venait l'instruire. Et là, pour la première fois, j'ose dire, dans tout son livre, il nous est dit à la fin du verset, il fut attentif à cette parole et il eut l'intelligence de la vision. Ce que Daniel ne comprenait pas, cette persécution du peuple de Dieu, qui n'avait pas de sens pour lui, semble avoir trouvé un début d'explication là, avec la notion d'un conflit qui ne se situe plus simplement au niveau de la terre, mais qui se situe au niveau du ciel. Dans ce combat, je vous l'ai dit, Dieu prend un risque. Il prend un risque, ou plutôt il hypothèque l'avenir. Mais comme il connaît l'avenir, il n'y a pas de risque de sa part. Mais il prend sur l'avenir. Et de la même manière, il anticipe la victoire de l'homme sur le péché, il anticipe la victoire de Moïse sur le péché quand il le ressuscite. Mais Satan, lui aussi, prend un risque. Parce que pour arriver à démontrer ce qu'il veut démontrer, que l'amour désintéressé, ça n'existe pas, il va pousser l'homme à pécher. Et là, en poussant l'homme à pécher, au bout du compte, s'il réussit, c'est bien pour lui. Mais s'il ne réussit pas, ça veut dire qu'à ce moment-là, il devient le responsable, le fautif de tous ces péchés qui ont été commis. Et donc, il prend un sérieux risque. Alors, il va devenir l'accusé. Je reviens à mon texte et je passe sur le nom de guerre de Jésus dont nous avons parlé. J'arrive maintenant au temps du combat. En général, ce texte est situé, on le situe dans le temps, avant la création de notre terre et avant la création de l'univers. Or, de nombreux éléments dans ce texte nous montrent qu'en réalité, cet épisode-là, même s'il y a eu un combat, et si le combat remonte à très loin, l'épisode qui nous est cité là, dans Apocalypse 12, se situe à la croix. Regardez les éléments. Quand le Satan est désigné, il est désigné comme le serpent ancien. Le désigner comme le serpent ancien, ça signifie que l'histoire du jardin d'Éden et du serpent dans le jardin d'Éden, c'est une histoire ancienne. Ensuite, il séduit toute la terre. Laissez-moi penser simplement qu'avant la création du monde, il n'y avait pas beaucoup de gens sur la terre. Et s'il séduit toute la terre, c'est que la terre est habitée à ce moment-là. Maintenant, le salut est arrivé. Alors, si je vous pose la question, quand le salut est arrivé? Votre réponse sera unanime. C'est à la croix. Je continue. Il est appelé l'accusateur des frères. Là encore, il faut qu'il y ait des frères pour qu'il puisse être l'accusateur des frères. Et puis il est dit que Jésus a vaincu, mais que ses fidèles l'ont vaincu aussi grâce au sang de l'agneau. C'est à la croix que ça se passe. Et enfin, j'aimerais ajouter les derniers arguments. Il est chassé sur terre sachant qu'il a peu de temps. Je crois que nous ne sommes pas avant la création de l'univers. Et on pourrait ajouter qu'au verset 13, immédiatement après, il va poursuivre la femme qui avait enfancé l'enfant mâle et que nous comprenons cela en général comme toute la période du Moyen-Âge. Par conséquent, cet épisode-là, je dis bien même s'il y a eu d'autres épisodes antérieurs à celui-là, l'épisode qui nous est décrit à l'Apocalypse 12 se passe à la croix. Mais que s'est-il donc passé à la croix? Eh bien, nous en avons un petit peu parlé avec le fait que Christ, à la croix, a fait une démonstration. Il a montré à l'univers entier, et vous comprenez que ce combat de la croix, il est pour notre salut, nous sommes bien d'accord, mais il est pour clarifier la situation au niveau de l'univers entier. Ce sacrifice a un impact sur l'univers entier. Et nous allons le comprendre. Et j'aimerais vous faire toucher du doigt. Et là, nous rejoignons un peu la problématique soulevée ce matin. On parle de Satan chassé du ciel. Et on en fait une guerre territoriale. Et depuis le début de cet exposé, je suis en train de vous dire que c'est plutôt un combat d'idées, beaucoup plus qu'une guerre territoriale. J'ai envie de vous dire, Satan pourrait monter au ciel, mais il n'a aucun intérêt à le faire. Pourquoi? Parce qu'il n'est plus crédible. Et ce texte qui nous le dit, c'est ceci au verset 8. « Et leur place, Satan et ses anges, sont jetés sur la terre. Mais leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. qu'est-ce que ça peut signifier? Pourquoi dire que leur place ne fut plus trouvée dans le ciel? Vous avez un texte semblable à la fin de l'Apocalypse pour dire que l'ancien ciel et l'ancienne terre ont disparu et leur place ne fut plus trouvée. C'est leurs idées qui n'ont plus cours, leurs concepts, leur manière de voir, leur enseignement. À partir du moment où Christ est mort à la croix, devant les anges, la démonstration est faite. Et elle est absolue. À partir de ce moment-là, le camp des anges est divisé en deux. Ceux qui vont, malgré tout, aller avec Satan et être jetés sur la terre. Et puis ceux qui sont avec Dieu, mais qui y sont complètement. Est-ce que nous réalisons que si un tiers des anges, et même si ce chiffre est symbolique, peu importe, si un tiers des anges a suivi Satan, c'est que les arguments de Satan avaient quand même une certaine force et une certaine logique. Les anges ne sont pas des êtres niais. Et ils ont eu tout le temps de réfléchir à ces choses-là. Par conséquent, ne pensons pas que ce que disait Satan était sans intérêt, sans force. Parfois, vous savez, quand on parle de ce combat au ciel, on a l'impression qu'il s'agit, oh, allez, d'une histoire pour les enfants. Est-ce que ça s'est vraiment passé comme ça? Mais c'est que le combat était rude. Et si un certain nombre d'anges ont suivi l'ennemi, combien d'autres qui ne l'ont pas suivi pouvaient avoir des doutes, des questions, des interrogations? Ce sont des êtres libres. Mais à partir de la croix, plus de questions, plus d'interrogations, plus de doutes, plus d'arrière-pensée. C'est clair. Satan a fait la démonstration de sa malignité en amenant le Fils de Dieu jusqu'à la croix et jusqu'à la flagellation, jusqu'au pire sort qui puisse exister. Mais Jésus a fait la démonstration de la bonté de Dieu, de son amour et d'un amour inconditionnel. Alors, au risque de vous choquer, je vais vous dire, si Satan montait au ciel, imaginons un cas d'école, il n'a plus personne à convertir. Il n'a plus personne à convaincre. Pardonnez-moi ce terme un peu trivial, mais il est grillé. Il est perdu au ciel. Il n'a plus sa raison d'être au ciel. Ses idées n'ont plus cours. Nous comprenons ces choses-là quand nous parlons de Satan qui est enfermé pendant les 1000 ans. Satan enfermé pendant 1000 ans n'est pas tenu par une chaîne d'airain. Il est tenu par une chaîne de circonstances. Les circonstances sont telles qu'il n'agit pas. Les circonstances sont telles qu'il n'agit pas. Et quelles sont ces circonstances? Eh bien, c'est qu'il n'a personne à séduire. De la même manière, à partir de la croix, Satan n'a plus personne à séduire au ciel. Il n'y a plus sa place. Et c'est ce que nous dit le verset 8. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Le mensonge n'a plus sa place. La ruse n'a plus sa place, la menace n'a plus sa place, la peur n'a plus sa place. Et par conséquent, toute peur n'a plus sa place. Et par conséquent, tout cela, tout ce qui était les armes de Satan, n'a plus sa raison d'être au ciel. Alors, voyons quelques-unes des idées, mais je vous les ai déjà données. Celle qui triomphe à la croix, et celles qui perdent. Dieu est-il injuste? A-t-il créé l'homme dans une nature telle qu'il lui est impossible d'obéir à sa loi? Nature telle qu'il lui est impossible d'obéir à sa loi? Non. Impossible d'obéir à sa loi? Non. On pouvait le croire jusque-là, parce que apparemment personne n'avait réussi à vivre sans péché, mais Jésus le montre. Ceci dit, la démonstration. Mais Jésus le montre. Ceci dit, la démonstration mérite d'être confirmée par nous-mêmes, par les hommes. Tout se fait par intérêt. Non, l'action désintéressée existe. Satan avait peut-être quelque chose à apporter dans la gestion de l'univers. Non, Satan n'a rien apporté. Il n'a apporté que de la souffrance, du mensonge, de la douleur. L'amour inconditionnel n'existe pas ? Si, l'amour inconditionnel existe. Dieu a placé la barre trop haut, aucun homme ne peut obéir à la loi ? Non. Il est possible à l'homme d'obéir à la loi de Dieu depuis que Christ. Il est possible à l'homme d'obéir à la loi de Dieu depuis que Christ l'a fait. Le texte continue. Christ l'a fait. Le texte continue et il fut précipité, donc le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable, et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant ». Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant, le salut est arrivé et la puissance et le règne de son Dieu et l'autorité de son Christ. » Le règne de Dieu est arrivé. Si je vous posais le règne de Dieu est arrivé. Si je vous posais malicieusement la question depuis quand Dieu règne? Probablement vous me répondriez de toute éternité. Et pourtant ce texte-là nous dit qu'à partir de ce moment-là, il règne. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, il règne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, j'aimerais vous rappeler ce que Jésus disait à ses disciples. Regardons dans la prière qu'il enseignait à ses disciples ce qu'il dit. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Ah, si Jésus prie que pour que le règne de Dieu vienne, c'est que le règne de Dieu n'est pas encore là. Mais je vous propose de lire la suite comme une explication de ce qu'il vient de dire. Que ta volonté soit faite sur la terre. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Dieu règne sur un cœur, Dieu règne sur une population, quand cette population lui est entièrement acquise, quand il règne sur les cœurs. Quand il règne sur les cœurs. S'il ne règne pas sur les cœurs, est-ce qu'il règne? Vous vous rappelez que Saint-Exupéry avait évoqué cela avec le petit prince qui régnait sur une planète. Il régnait en maître absolu, mais personne n'habitait cette planète que lui. Il régnait sur quoi? De la même manière, je crois que Dieu ne peut parler de règne, on ne peut parler du règne de Dieu que si ses sujets lui sont entièrement acquis. Eh bien, à partir de la croix, à partir de ce moment-là, il n'y a plus aucun doute dans le croix. À partir de ce moment-là, il n'y a plus aucun doute dans le cœur des anges. Le cœur des anges lui est entièrement acquis. On peut dire qu'à partir de ce moment-là, il règne sur la société céleste. Mais voilà, ça n'est que la société céleste. Là, les choses sont bien claires. Il y a ceux qui le suivent, et ceux qui le suivent complètement, puis il y a ceux qui se sont écartés et qui s'en sont écartés complètement. Il y a un clivage dans la société céleste. Eh bien, ce qui s'est passé dans la société céleste à la croix, ça va aussi se passer sur cette terre. Avançons un peu, je vous le propose. Et il nous est dit ceci. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. La victoire que Christ a acquise à la croix, elle est aussi pour nous. Elle nous concerne. Mais en quoi nous concerne-t-elle? Et la suite du texte nous l'apprend. Il y a deux choses. Il y a d'abord le sang de l'agneau. Mais il dit qu'ils l'ont vaincu, ils ont vaincu donc l'ennemi, Satan. À cause qu'ils ont vaincu donc l'ennemi, Satan, à cause de la parole de leur témoignage. Et là, il nous faut essayer de comprendre ce que veut dire ce témoignage. Cette victoire donc est à une double condition, le sang de l'agneau et le témoignage. Regardons ce que nous dit ce texte d'Hébreux, chapitre 2, versets 14 et 15. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort il anéantisse celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Et là, on nous révèle qu'un des moyens de Satan de nous tenir dans la servitude, quel est-il? La peur. Dieu, quel est-il? La peur. Dieu nous tient dans la servitude par la peur. Toutes les peurs, mais toutes les peurs résumées dans une seule, la peur de la mort. Si Dieu nous délivre de la peur de la mort. Si Christ à la croix, n'ayant pas fléchi à cause de la peur de la mort, nous transmet sa victoire. Il nous transmet une victoire sur la peur de la mort. Réfléchissez. Si Satan ne nous fait plus peur, qu'est-ce qui peut encore nous pousser à pécher? La peur, la victoire sur la peur, est une des clés du succès. C'est du moins ce que je retiens de ce texte de l'Épître aux Hébreux. J'avance encore un petit peu, donc cette victoire, c'est la victoire de l'amour sur la peur. C'est la victoire de l'amour sur l'intérêt. C'est la victoire de l'amour sans condition. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, nous dit Jean. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas dans l'amour. Et le texte continue, c'est le dernier verset. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer. Réjouissez-vous, cieux, parce qu'au moins les choses sont claires. Mais de la même manière que les choses sont claires là, viendra un moment où les choses seront claires sur cette terre. Mais claires, ça veut dire que toute une part seront claires sur cette terre. Mais claires, ça veut dire que toute une partie de la population de notre terre sera entièrement acquise à Dieu. On pourra dire en d'autres termes que la vendange est mûre, que la moisson plutôt est mûre. Et de notre côté, vous avez ceux qui seront entièrement dévoués à l'ennemi. Le clivage, petit à petit, va s'opérer. Et nous y allons. Et vous connaissez ces textes de l'Apocalypse qui en parlent. Et quand on sera arrivé à ce point, alors on pourra dire, comme Jésus le dit dans cette prière qu'il enseigne aux disciples, « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. » Que ce qui s'est passé au ciel, à la croix, ça mettra un petit peu plus de temps,